Il y en a un qui arrive.
Le tableau. Pour l'amour du ciel, le tableau. Si ce homme-là, il s'enfuit avec.
CO2, mon amour.
Ah, merci.
Denis Chessou.
Le signor de Vinci a été invité au palais en tant qu'artiste dédié à la cour.
Léonard de Vinci.
Michel-Ange est retenu par un plafond à Rome. Je ne suis que du second choix.
Ça alors ? Moi qui avais pris le chemin de Gênes sans savoir que mon sauveur venait justement à moi. Monsieur, vous êtes l'inventeur de la pensée de l'avenir et mon père, lui, est le roi des passéistes. Peut-être pourriez-vous lui faire comprendre qu'on est au XVIe siècle.
Sur France Inter.
Et oui, car c'est bien Léonard de Vinci donc qui va s'inviter dans cette émission. Bonjour à toutes et à tous, CO2 mon amour. Donc cette émission dédiée principalement, vous l'avez bien compris, à la nature à présent. Donc la nature qui chuchote à vos oreilles avec Nicolas Cazot à la technique. Nous avons préparé l'émission avec Camille Blanès et c'est Jérôme Boulet qui la réalise. Et alors, vous pensez que c'est une bonne idée de journaliste, ça, à deux jours de la nuit du 24 décembre, de m'interroger, moi, le Père Noël, pour me demander quelle est mon empreinte écologique? D'abord, j'y pense toute l'année, mais bon, mais pas là, quoi, parce que Chronopost, FedEx, tout ça, bon, à côté de ma caverne de lutin au taquet, c'est de la rigolade. On doit charger tous les traîneaux. Ça fait 2000 ans que je fais de la logistique. Ah bah oui, c'est moi qui ai inventé la logistique. Et puis le lutin, il se met pas en grève, hein. Bah non, c'est pas comme à Radio France. Cela dit, moi, le Père Noël, j'ai beau être un produit mondialisé, dans mon traîneau radio, je n'écoute que France Inter, culture, musique, info, etc. Parce que si on veut garder la qualité, il faut quand même des moyens et des trucs qui ne rentrent pas toujours dans les tableaux Excel et qui s'appellent les êtres humains. Bon, alors comme je suis un gars gentil, quand même, je vais quand même vous répondre en 30 secondes là sur l'empreinte écologique. J'ai des rennes, des caribous que je change tous les 15 ans, pas trafiqués, hein, comme les diesels de vos SUV. Ils sont nourris au foin bio, qui ne prendront jamais de giclées de pesticides dans les nasaux, et même les anneaux d'ailleurs, à 5 mètres de leur habitation. Voilà, contrairement à vous, qui allez continuer à servir de cobayes. Super. Et puis mes rennes, alors ils se déplacent à fond, 24 heures par an. Oui, 24 heures seulement. Bon, voilà, je suis d'accord, syndicalement, il n'y a pas de pause machine à café, hein. Et le reste du temps, eh ben, ils méditent avec Christophe André dans leur steppe de Laponie, de Sibérie, du Canada, à bouffer du lichen et à être les témoins du réchauffement climatique. Quoi, Mahouplande encore? Qu'est-ce qu'elle a, Mahouplande? C'est la même depuis qu'on m'a inventé il y a 210 ans. Avec teinture rouge végétale de Garance, hein, de Garance voyageuse même, qui dit mieux? En revanche, alors là, c'est vrai que ce que je transporte dans ma hotte, autrement dit les cadeaux, ça je reconnais que ça me dépasse, hein. Moi, je fabrique juste les jouets en bois, c'est-à-dire moins de 0,001% du business. Et alors, je reconnais que vu de traîneau, là, je le vois bien, hein, les usines fument de partout, les terres sont éventrées, déboisées, les décharges sont pleines et le plastique dégueule des grands fleuves vers la mer. Quoi, vous avez encore une question? Mais attendez, moi, j'ai du taf, hein. Ce que je pense de la retraite, moi, écoutez... Moi, le Père Noël, est-ce que j'ai une tête à partir à 62, 64 ou 108 ans? Hein, je suis à peu près le seul type à ne pas être considéré comme senior après l'âge de 45 ans dans ce pays, à ne pas être mis sur la touche à 60. Bon, alors j'ai du boulot et demandez à mes amis les sapins, les arbres, ce qu'ils pensent, eux, de la retraite. Ah, bah tiens, toi, l'arbre, quand la prends-tu ta retraite? Oh, moi, tu sais, je suis un chêne. Je peux rester sur terre 500-600 ans sans rien coûter à personne. Aucune pension à me verser. Je vous nourris d'oxygène, d'oiseaux, d'ombre, de bêtes et d'eau filtrée à mes pieds. Non, moi, ce que je peux craindre, c'est la retraite anticipée face à une lame de tronçonneuse qui verra en moi des stères à débiter. Et toi, le renard? Oh, que tu m'apprivoises ou non, je peux vivre, allez, 3 à 10 ans dans la nature. Ça dépendra des aigles, des loups, des balles perdues. Alors, battre en retraite, c'est juste me planquer dans mon terrier pour rester vivant. Et toi, pour finir, l'abeille? Ah bah moi, je suis une ouvrière, tu sais, je cotise à rien, je veille à l'unité de la ruche, je fais mon travail pour la reine et pour la communauté. Et après 5-6 semaines en été, je rends l'âme. Mais on peut me dégager bien plus vite avec tous les mots en cid. Alors c'est vrai, dans la nature, on ne connaît pas le mot retraite. Le Père Noël non plus. Aussi, je vous souhaite avec ou sans traîneau SNCF de bonnes vacances à tous. Et Et le menu va être simple, mais il va être copieux, vous l'avez compris, ça va être Vinci et la nature. Alors Vinci, pas la petite PME hein, qui se goinfre et vous fait les poches avec les péages d'autoroute, simplement notre ami Léonard. Alors je l'ai fait venir donc du Louvre hein, pendant les 37 minutes, le temps de l'émission, chez lui au Clos Lucé, donc il a passé les 3 dernières années de sa vie, et on va donc découvrir Léonard et la nature.
Dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and the children listen to hear sleigh bells in the snow. The snow said I dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days, be merry and bright, and may all your Christmases be white.
Ah bah oui, c'était le week-end ou jamais, ça, White Christmas, donc un classique, vous le savez, revisité, qui a dû être repris au moins une cinquantaine de fois. Là, c'était Michael Bublé et Shania Twain.
CO2, mon amour.
Je cherche le Seigneur de Vinci. Nous devons aller au monastère ensemble. L'auriez-vous vu par ici?
Denis Chessou.
De Vinci? Non, Votre Altesse.
Sur France Inter.
Ah, et pourtant il y est. Pourtant il n'est pas loin, notre Seigneur de Vinci. Nous sommes dans l'Indre-et-Loire, qui ne s'appelait sûrement pas comme ça à l'époque. Nous avons le château d'Amboise, donc château de Louis XII, et puis résidence des rois de France durant la Renaissance. Et puis, un petit peu à l'écart de ce château d'Amboise, mais dans le château, hein, qui vraiment mérite le détour, la chapelle Saint-Hubert. Et quand vous rentrez sur la gauche, vous avez une pierre tombale toute simple indiquée Léonard da Vinci. Et ça, c'était la volonté de Léonard de rester ici et, au-delà de la mort, de demeurer sous la protection de François Ier. Jean-Louis Sureau est le directeur du château d'Amboise.
Alors, Léonard de Vinci n'a pas eu une éducation académique et donc il a observé le monde qui était autour de lui, la machinerie du monde et en particulier la nature dans le paysage toscan. Et je crois qu'il a un œil tout à fait particulier sur toutes les choses qui lui étaient offertes et la capacité incroyable ensuite de représenter ce qu'il a pu voir. Le roi était sans doute soucieux d'avoir à sa cour un personnage de grande importance, un personnage illustre, un grand artiste. Et Léonard a trouvé dans ce jeune roi une figure de protection dont il avait besoin pour ses derniers jours. C'est-à-dire, quand il entreprend ce voyage en France, il sait que c'est son dernier voyage. Et comme tel, en fait, il a confiance dans le fait que le roi va lui permettre de vivre ces dernières années dans une situation très confortable sur le plan matériel, mais aussi sur le plan artistique. C'est-à-dire qu'il va pouvoir travailler comme il veut sur les sujets qui l'intéressent.
Et Jean-Louis Sureau, donc notre directeur du château d'Amboise, nous rappelait ce que l'on sait, mais quand même, qu'il n'est pas mort, Léonard, dans les bras de François Ier, ce qui fait que pour le storytelling, le 2 mai 1519, ça le faisait bien, mais c'est quand même pas la réalité. Bon, ce qui est sûr, c'est que notre homme n'avait pas tous ses trimestres, ni de retraite par capitalisation, donc il s'est placé sous le mécénat de François Ier, qui avait une très grande admiration, bien sûr, pour cet homme. Et donc on va faire moins d'un kilomètre à pied, depuis le château d'Amboise, pour rejoindre le Clos Lucé. Alors certes, Vinci, l'inventeur hein, qui a fondé la science expérimentale, l'ingénieur, le visionnaire d'un monde meilleur, le peintre, mais dans cette émission dédiée en grande partie à la nature, Vinci, le naturaliste. Et là, j'ai un livre entre les mains. Léonard de Vinci et la nature, hein, signé Patrick Scheder, Alain Bougrain-Dubourg et Francis Allais, aux éditions Ouest France. On va rejoindre Patrick Scheder, mais aussi François Saint-Brice, qui est le directeur qui dirige la demeure familiale du Clos Lucé, près de 400 000 visiteurs par an. Et là, nous sommes dans le jardin. Alors nous avons quitté le château d'Amboise qui est vraiment à côté, une portée d'arbalète. Et alors nous sommes accueillis dans ce merveilleux Clos Lucé par François Saint-Brice. Bonjour François.
Bonjour Denis.
Alors si nous parlons de Léonard de Vinci, première chose, la colonne vertébrale de Léonard, c'était la nature. Donc tout petit évidemment en Toscane et puis jusqu'à la fin de sa vie.
Oui, en fait Léonard de Vinci c'est un autodidacte complet. Et sa chance c'est qu'il n'a pas été à l'école et il a été élevé dans la nature. Et sa colonne vertébrale effectivement... C'est cette nature qui va l'inspirer du début jusqu'à la fin.
On a l'observation quand même au départ, puisque son grand-père lui disait « Mais fais-toi l'œil, regarde, ouvre bien les yeux. »
Pollocchio, ouvre l'œil. Effectivement, il va apprendre là à observer, expérimenter, comprendre et apprendre. Effectivement, c'est lui qui va... l'un des premiers à développer la science expérimentale qu'il va appliquer sur la botanique, sur la géologie, mais aussi il sera l'un des premiers à créer un traité de la peinture, un traité de l'architecture, un traité d'astronomie. Il étudie la lune et sa lumière cendrée, et donc grâce à cette observation toujours en éveil.
Saint-Brice, là nous sommes sur un petit belvédère. C'est très intéressant parce que dans ce Clos Lucé, vous avez voulu aussi donc retraduire l'amour de la végétation qu'avait Léonard donc avec ce lieu.
Léonard disait de la nature, tout est là. Et nous avons voulu recréer un espace qui existait déjà dans un espace naturel existant, un corridor ligérien, en recréant ce jardin rêvé de Léonard. Et nous avons replanté 30 espèces d'arbres, de plantes et de fleurs que Léonard a dessinées dans ses croquis, dessins et tableaux.
Alors racontez-nous, François Saint-Brice, Léonard arrive, on le sait, donc fin de sa vie, François Ier donc, lui dit « Allez, viens chez nous », peut-être qu'il ne lui parlait pas comme ça. Donc il arrive avec ses croquis, ses mallettes, donc tout son savoir. Il arrive ici, et alors comment ça va se passer, on va dire, ces trois dernières années?
Alors, pour lui, cette invitation royale, c'est une genre de bénédiction, finalement, parce que il travaille pour un mécène, Julien de Médicis, qui est le frère du pape, et il a 63 ans, et ce mécène vient de mourir. Donc, quand le roi...
Il faut lui trouver d'autres protections.
Voilà, absolument, parce que il est un artiste, et les artistes vivent avec des commandes, des commissions. Et que le roi François Ier l'invite, pour lui, c'est une aubaine qu'il saisit et il va traverser les Alpes à dos de mule avec, dans ses sacoches de cuir, tous ses manuscrits, tout le travail de sa vie, mais aussi la Joconde, la Sainte-Anne, le Saint-Jean-Baptiste. Et il s'installe au manoir du Clou, ce château de Clou, qu'on appelle aujourd'hui Clos Lucé, et donc avec une pension de 1000 écus d'or, ce qui est une véritable fortune, et le titre de premier peintre, premier ingénieur et premier architecte du roi que lui donne ce jeune roi François Ier, tout auréolé de sa gloire de Marignan.
Alors Patrick Schoeder, bonjour à vous Patrick.
Bonjour Denis.
Alors Patrick, donc vous avez écrit, on le rappelle, avec Alain Bougrain-Dubourg et Francis Salet aux éditions Ouest France, Léonard de Vinci, donc et la nature. L'homme aimait marcher. Bon, il y avait très peu de véhicules, on est bien d'accord à l'époque, mais quand même, c'était extrêmement important et ce rapport à la nature passait aussi par les jambes chez Léonard.
Oui, et puis la nature, c'est aussi la musique, parce qu'il faut pas oublier qu'il était musicien, il jouait de la lyra da braccio, il chantait, et je pense que les sons de la nature l'ont beaucoup inspiré pour faire sa musique, qui était un peu comme son œuvre, une sorte d'alternance de clair et d'obscur. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans cette nature, voilà, il y a une alternance de lumière, d'ombre tout d'un coup. Et c'est aussi caractéristique de la pensée de Léonard. C'est pour ça qu'il était fasciné par l'eau. Parce qu'il voyait dans les tourbillons de l'eau comme une sorte de reflet de l'âme humaine.
Et à cette époque, donc dans cette Renaissance, on va dire même sans plus large au Moyen-Âge, on n'avait pas de différence véritable entre le monde naturel et puis le monde humain.
D'abord, je dirais l'amour profond de Léonard pour tous les êtres vivants. Je crois que c'est très important. On parle souvent de Léonard comme d'un grand peintre, effectivement, un grand ingénieur, un grand scientifique. C'est aussi un grand amoureux. Parce que tout ça, il le fait pour nous aider, pour aider le genre humain. C'est la première chose. Et ensuite, il ne voit pas de différence entre l'être humain et l'animal. Je pense qu'on n'imagine même pas comment il pouvait aimer les chevaux. Il faisait plus que de l'aimer, il communiquait avec eux comme avec des êtres qui étaient... Il n'était pas l'homme supérieur. Il dit bien sûr que l'homme, c'est le modèle du monde. Mais je pense qu'il pense que cet esprit divin est répandu partout à égale dose. Donc on peut converser avec les animaux, comme peut-être on peut converser avec les plantes. C'est là qu'il devient à la fois artiste et scientifique. Certains écrivent des tomes pour faire preuve de leur recherche, de leur pensée. Lui, je dirais, il écrit des tableaux. C'est non seulement une œuvre sensible, mais c'est une œuvre de connaissance.
Et alors, on n'était pas très loin, en fait, de Gaïa, qui a été après donc popularisé par Lovelock, parce que cet homme-là, donc, lorsqu'il regardait un cours d'eau, quand il s'intéressait à l'hydrographie, pouvait aussi donc penser à notre corps humain et donc aux différents flux qu'on pouvait avoir. Et pareil aussi sur l'ensemble presque du monde.
Oui, c'est vrai que Léonard analyse la nature et procède par analogie. Par exemple, il étudie l'anatomie, il a disséqué plus de 30 cadavres d'hommes et de femmes, mais aussi des cadavres de chevaux, de chiens, etc. Et il considère que la nature, par exemple, a une respiration et que cette respiration, elle est alimentée pour les arbres par la sève qui monte et il fait donc une comparaison entre les mouvements de respiration humains et celles de la nature. Et en fait, c'est vraiment un humanisme profond. Il met l'homme au centre de la nature. Et pour nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est une véritable leçon. À l'époque, Léonard de Vinci, contrairement à Descartes, pensait que chaque arbre, chaque plante avait son utilité. Plus tard, Descartes dira « il faut asservir la nature, on coupe les arbres pour en faire des charpentes de maisons ou des mâtures de bateaux ». Mais Léonard revient à l'essentiel. Chaque plante, chaque arbre, chaque fleur a son utilité dans la nature. Alors là, nous traversons un pont léonardien et nous avons de l'eau de source et qui descend par des cascades et nous avons des truites ici qui naviguent dans cette eau pure.
Ah oui.
Caractéristique.
Oh, on les voit. Hop là.
Voilà, et là nous allons monter sur ce pont au premier niveau, ce pont à double travée, à double étage, et qui est un pont construit par les charpentiers du devoir avec les mêmes méthodes qui étaient utilisées à l'époque médiévale. Donc c'est un pont en chêne massif.
Alors rappelez-nous, pourquoi donc ce pont à deux étages ?
Alors c'est un pont environnemental, on peut dire, parce que Léonard de Vinci était un urbaniste. Il a survécu, on peut dire, à Florence à la suite d'une épidémie de peste qui avait dévasté pratiquement un tiers de la population en Italie. Donc il était frappé par l'insalubrité des villes et il voulait des villes plus propres. Il disait que les villes devaient avoir, lorsque vous aviez une hauteur d'un immeuble, il fallait pratiquement la même largeur pour la route ou la rue qui la desservait. Donc il fallait aérer tout ça, parce qu'à l'époque, bien sûr, on versait ses pots de chambre. Oui. Et donc c'était tout à fait malsain. Donc ce pont à deux niveaux, c'est un pont qui permet de réguler une circulation des piétons sur la passerelle supérieure et la passerelle inférieure pour les chargements, les chariots, les chevaux, etc.
Donc on mettait les gens en hauteur.
En hauteur.
Pour respirer moins de...
Moins de miasme, ouais, peut-être. Et aussi, Léonard avait aussi pensé à un troisième niveau qui était en sous-sol et qui permettait d'évacuer les déchets. Donc voilà, les fluides, les déchets.
François Saint-Brice, ce que l'on sait peut-être un petit peu moins, c'est qu'en fait, il a aussi travaillé sur l'assèchement des marais de Sologne.
Oui, en fait, Léonard de Vinci a travaillé sur les grands projets structurants pour le royaume de France, pour le roi François Ier, pour ses commandes royales. Par exemple, un plan d'assèchement de la Sologne. Il avait d'ailleurs montré son expertise en travaillant pour le pape, pour Julien de Médicis, frère du pape, pour l'assèchement des marais pontins. Il avait aussi travaillé avec Machiavel pour détourner l'Arnau de la ville de Pise, qui était l'éternel rival de Florence. Donc il avait travaillé de concert avec Machiavel pour la cité-état de Florence, pour justement assécher finalement Pise.
Alors, faut juste rappeler une chose, c'est que quand même ici à l'époque, on pouvait mourir aussi à cause de cela, c'est-à-dire qu'il y avait quand même aussi, voilà, des miasmes, comme on disait.
Absolument, il y avait ces miasmes dans les marais soloniaux. Bien sûr, François Ier qui souhaitait en faire le centre du royaume, avec d'abord Romorantin, puis Chambord. Romorantin, donc projet de Léonard de Vinci, qui finalement n'a pas vu le jour et qui a été remplacé à sa mort en 1519 par la pose de la première pierre de Chambord. Chambord est au cœur de la Sologne. Donc effectivement, il y avait ces miasmes qui décimaient régulièrement les populations. Et Léonard de Vinci aussi a travaillé sur un projet structurant pour le royaume qui était de relier le Val de Loire au Lyonnais par des systèmes de canaux et d'écluses pour gagner plus facilement l'Italie. Donc en reliant le Val de Loire donc à la Saône. Donc Léonard était reconnu pour ses capacités d'ingénieur hydraulique et mécanique.
Alors au-delà des truites qui viennent vous saluer en sachant que vous n'allez pas les harponner, non, pas du tout, le lieu, vous le savez, est charmant, quoi. C'est une formidable parenthèse culturelle qu'est ce Clos Lucé, et un homme qui connaît bien les lieux est Souchon.
À Lille, sur la Grand Place, par un jeu subtil de glace, j'avais son profil de face. Elle a glissé l'argent sous la tasse, s'est levée, je l'ai perdu. J'aurais dû. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi. On a presque poussé la porte, presque passé sous le porche. Et puis dans la cour fleurit le mot qu'elle a dit. Sur sa joue j'ai posé mon index, elle a glissé sa main sous ma veste. Un peu plus là, tous les deux, tous les deux. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. Je t'ai presque écrit ce matin, presque pris mon courage à deux mains. Te dire qu'à Lille, sur la Grand Place, j'avais ton profil de face. ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour.
Là, notre Alain Souchon, donc, nous emmenait à Lille, mais il connaît très, très bien, donc, l'Indre-et-Loire, presque issu de son dernier album, France Inter, CO2, Mon Amour, et Léonard n'est pas encore reparti au Louvre. Il est donc avec nous, avec vous, jusqu'à 14 heures. Alors, son nom, évidemment, on est dans une petite commune entre Florence et Pise, au cœur du vignoble Chianti Montalbano. Et ça signifie quoi, Vinci? Eh ben, il y a le côté vaincre, mais aussi des plantes qu'on va dire qui sont assimilables à des joncs qui étaient utilisés dans l'artisanat toscan. Et donc, il a grandi dans cette nature très riche, enfant naturel, il observe tout, livré aux éléments, et puis il dira, la nature, c'est ma maîtresse. En regardant la nature, on voit son futur. Nous descendons dans le jardin du Clos Lucé. Là, il disait, le peintre lutte et rivalise avec la nature, toujours avec François Saint-Brice et Patrick Schéder.
Ici, c'est un jardin médiéval qui précède le jardin de Léonard.
Donc ça, c'était la pharmacie, on va dire.
Alors voilà, il y a des plantes, des simples, effectivement des plantes médicinales. Et là, ce sont les anciens contreforts du vieux Clos Lucé. Ce sont des arches du XIIe et XIIIe siècle. Et là, nous pénétrons dans le jardin de Léonard, sur un hectare de surface, et qui est alimenté par des cascades. Et on voit effectivement ces brumes qui nappent ce jardin d'eau dans lequel ont été replantées les plantes chères à Léonard, qui sont d'ailleurs des plantes tout à fait simples. Hein. Ce sont des plantes ordinaires, des plantes médicinales, des plantes aquatiques, des plantes subaquatiques. On est dans cette quiétude avec ce rayon de soleil d'automne et ces brouillards qui diffusent ce fameux sfumato, qui est l'art achevé de l'estomper. Donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Léonard est à la fois un artiste et un scientifique de premier plan. Que ça soit l'anatomie, l'astronomie, l'architecture, la botanique. Et il va aller extrêmement loin. Donc c'est l'homme de l'hyperprofondeur. Et aussi, il représente pour nous l'archétype de l'homme de la Renaissance, c'est-à-dire la rupture de l'homme médiéval et de l'homme renaissant qui s'inspire de l'Antique, de toute cette connaissance latine et grecque, puisqu'il va étudier, bien sûr, Aristote, Ptolémée, de façon à faire la synthèse en mettant l'homme au centre de l'univers.
Patrick Schéder, qu'est-ce que ça vous inspire, on va dire, ce lieu, si vous deviez croiser Léonard?
Beaucoup de sérénité, voilà, et un curieux mélange, comme toujours chez Léonard, entre le rêve et la réalité. Voilà. C'est ça qui est incroyable chez lui, c'est qu'il reproduit avec une exactitude absolue chaque plante, mais quelque part, dans la façon dont il la présente, il l'interprète. Voilà. Son premier dessin que François Saint-Brie nous montrait tout à l'heure, par exemple, c'est un paysage bon, qu'on a retrouvé plus ou moins, mais qui à chaque fois, il recompose. Voilà. Et je trouve dans ce sfumato qu'il y a une recomposition de l'ensemble qui fait qu'il prend en compte dans la peinture l'atmosphère. Pas seulement l'exactitude des formes, mais aussi la communication qui est entre ces formes. Et c'est ce qu'on ressent puissamment ici, c'est ça qui est vraiment subtil.
Et en fait, il n'y avait jamais de lutte entre Léonard et la nature. En revanche, il y avait une course.
Oui, alors il y a en même temps une course, voilà, parce qu'il est tellement curieux, il est tellement en appétence de voir les choses qu'il dit, j'ai encore ça à découvrir, à comprendre, etc. Et en même temps, ce qui nous inspire dans notre monde actuel, c'est qu'il rêve d'un monde harmonieux, en fait. Je crois que pour lui, le plus beau des mondes, c'était celui dans lequel on vit. Mais il fallait savoir le regarder. Il a fait de sa peinture un instrument pour qu'on voit les choses telles qu'elles sont dans la réalité profonde, aussi bien spirituelle que matérielle. Certains artistes rêvent à un monde meilleur. Lui, il dit que ce monde-ci, c'est le monde meilleur. Il suffit de le considérer, de le voir, de le comprendre. Du coup, il est en même temps très croyant. Voilà, il dit les moines, ce sont les pères du peuple. Voilà, donc c'est une vérité établie. Mais il, comme il est très curieux, il demande d'avoir à comprendre dans la nature, en quelque sorte, le crayon de Dieu. Il dit, puisque ça a été créé, je veux voir comment c'est fait. Je veux. C'est même pas une preuve. Il veut comprendre. Voilà, il veut se rapprocher de Dieu par cette connaissance.
Ah, on lève les yeux au ciel, une jolie passée d'oiseaux. Alors ces oiseaux donc, ont énormément aussi inspiré Léonard de Vinci. Il s'intéressait aux animaux, il s'intéressait aux chevaux. Il y en avait autour de chez lui quand il était petit avec son oncle Francesco. Mais aussi donc ces fameux oiseaux qu'il a tenté aussi de reproduire. Il s'intéressait bien à la mécanique des oiseaux.
Oui, alors les oiseaux, effectivement, nous avons créé une île pour la nidification des oiseaux migrateurs. Ici, l'hiver, on a des bernaches du Canada qui viennent. Et sur cette île se reproduisent les canards, mais aussi les poules d'eau, et on a des naissances. Et on voit aussi la nature, parce qu'il y a les prédateurs de la nature, les corbeaux viennent le soir, lorsque les visiteurs quittent le lieu, et sont à l'affût pour aller piquer justement ces œufs. Et autour de cette petite île, les pères présumés, on va dire, de la canne qui couve, montent la garde. Et également, il y a des libellules, nous avons aussi des salamandres, qui sont cette espèce protégée.
Patrick Schneider, moi je reviens sur les oiseaux, il les a dessinés, il a fait des maquettes.
Observer, il y a des centaines de dessins. Ça l'inspire, voilà, et ce que je trouve extraordinaire, c'est que la beauté des dessins de Léonard a plusieurs vertus. D'abord celle de nous charmer, de nous séduire. Et c'est une séduction d'un ordre très particulier, parce que Léonard, effectivement, s'est inspiré notamment de l'aile de la chauve-souris, voilà, pour créer une aile qu'il espérait volante. On n'est pas sûr qu'il ait jamais pu l'essayer. Bon. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire chez Léonard, c'est que, bon, il savait très certainement qu'un seul homme ne pourrait pas tracter à lui seul cette machine qu'il était en train de construire. Mais pourtant, contrairement à d'autres qu'on a abandonné, il persévère. C'est-à-dire, quand il sait même que peut-être ça va pas marcher, il persévère et par la beauté de son dessin, il rend possible dans l'imaginaire des humains les choses. Là, je suis pas arrivé parce que j'ai peut-être pas les matériaux, mais plus tard, grâce à la beauté de mon dessin, vous aurez cette même envie que moi et vous la réaliserez. Alors ça, je pense que c'est une vertu de l'art, que de rendre possible les choses impossibles. Tout comme la vertu de Vinci, ça a été de rendre en quelque sorte visible ce qui était du domaine de l'invisible, ce qui est quand même une sacrée gageure.
François Saint-Brice, vous qui êtes quand même habité par cet homme, son héritage, je dirais, par rapport à la nature, pour vous, qu'est-ce que c'est, si on devait un petit peu le résumer?
Là, je résumerai par ses propres mots, ces trois mots, tout est là. Je pense que c'est un message qui est très fort, et qui doit nous aider à notre génération et aux générations suivantes pour continuer à profiter de ce bien magnifique qui nous est donné de vivre sur cette planète et de la protéger. Et c'est aussi notre message que nous avons pour les groupes scolaires que nous accueillons. Nous avons des ateliers nature et environnement et nous leur passons ce message, l'utilité de chaque plante, chaque arbre, chaque fleur, dans la nature et la nécessité de préserver, de sauvegarder ce bien commun qui nous est donné.
Léonard, aujourd'hui, aurait été une figure aussi de l'écologie. Je sais bien qu'il mêlait donc différentes sciences et que justement, ce qui était intéressant chez lui, c'est que la culture et la science n'étaient pas en silo. Il essayait de réunir tout cela. Mais il se serait battu quoi, pour ce qui se passe.
Je pense. Certains disent, comme Fritz Capra, qui a étudié Léonard et la nature, très en profondeur, dit que Léonard est le père de l'écologie profonde. Donc, il y a 5 siècles, Léonard déjà pensait à cette chance que nous avions de vivre sur cette planète et que cette nature, elle nous est donnée et que nous n'avons pas à la détruire, nous avons à la protéger pour la transmettre.
Et alors, Léonard aimait tellement les oiseaux au marché de Florence, il achetait donc des oiseaux pour leur rendre la liberté.
Voilà, c'est ça. Je pense que c'est une belle métaphore de l'esprit de Léonard qui est avant tout un esprit libre. C'est très important. Il y a un autre aspect qui me semble essentiel, c'est que Léonard se préoccupe de relier les savoirs. Ça, c'est très très important. C'est certainement ce qui manque actuellement dans la science. des choses qui avaient déjà été annoncées par des personnes comme George Sand, qui dès les années 1870 disait « mais l'industrie scientifique peine à répondre aux besoins de l'homme ». Et actuellement, ce que Léonard nous dit, c'est qu'il n'y a pas de petits détails dans la nature. Hubert Reeves, par exemple, se bat beaucoup pour que les vers de terre puissent encore exister. C'était tout à fait dans l'esprit de Léonard. Le ver de terre est aussi essentiel que le plus grand oiseau. L'homme a besoin des deux pour exister. Donc ces notions de biotope, ces notions de biodiversité sont totalement présentes chez lui. Pourquoi ? Non seulement parce qu'effectivement il a une intuition géniale du monde, mais ne jamais oublier quand même qu'il a vécu 14 ans à la campagne.
Patrick Scheder, comment Léonard de Vinci pensait la nature ?
Il la pensait effectivement par ce système d'analogie. C'était une pensée qui est en partie a été héritée d'Aristote. Voilà, Aristote dit par exemple qu'une huître pourrait être considérée comme un arbre de mer, puisque l'huître se développe année après année avec des cercles, tout comme fait l'arbre. Voilà, donc il y a une pensée analogique. Mais comme c'était un autodidacte, certes il a lu Aristote un peu tardivement, il a lu Platon, mais il a développé son propre projet. Et parfois il dit que la mer est le sang de la terre, que les rivières, les fleuves sont ses veines. Bon, il dit que peut-être que l'eau qui éclate ensuite en haut d'une montagne serait une veine qui serait tranchée. Bon, après, il fait beaucoup d'analyses, il se rend compte que c'est pas vrai, donc il adapte sa pensée sans cesse. Et ce n'est pas quelqu'un qui tient mordicus à quelque chose, il tient surtout à la vérité. Voilà. Donc il investigue sans cesse. Et tout à l'heure, on évoquait le sfumato, j'ai pensé à quelque chose, comme c'était quelqu'un qui était passionné de géologie, il regardait les couches, les sédimentations, etc. Je crois qu'il a essayé dans ses tableaux, par le sfumato, de créer une sorte de micro-géologie. Et pour effacer effectivement les traits parfois un peu durs qui distinguent un visage de l'extérieur, de l'atmosphère, il a recréé, comme le fait la nature, couche après couche de cimentation, une sorte de jardin et de micro-climat qui est posé sur une toile. Je pense qu'il est jusque-là dans son imitation de la nature qui, couche après couche, crée une histoire. Il fait de même dans un tableau.
Léonard de Vinci et la nature aux éditions Ouest-France, et puis aussi j'ai entre les mains du Clos Lucé au Louvre, donc les trois chefs-d'œuvre de Léonard de Vinci, à savoir Sainte-Anne, Saint-Jean-Baptiste et puis Saint-Baptiste et puis la Joconde. Ça c'est aux éditions du Clos Lucé. Bon, évidemment cette exposition incroyable donc au Louvre, mais ça vous le savez déjà, si vous avez de la place, c'est bien, tant mieux. Merci à tous, merci à Jérôme Boulet, qui a donc réalisé et a choisi les couleurs de ce reportage, Grégory Wallon qui les a mixés. Et puis, le dernier mot, comme à chaque fois, de l'émission, à Jacques Bonafé.
Pingouin dans les prés, l'hiver sera gelé. Pingouin dans les champs, l'hiver sera méchant. C'est un dicton.
Oui, on va pas épiloguer là-dessus, mais c'est bien aussi. Merci à Nicolas Cazot qui était à la technique aujourd'hui, à Camille Blanès, à Jérôme Boulet qui a réalisé l'émission, à Thierry Dupin qui a choisi les disques, à Anne Gouzon qui nourrit les sites. Et puis la semaine prochaine, Hubert Félix Thiéphen. La semaine dernière, il y avait une rediffusion donc de La Loue dans le Doubs. Et ben là, nous partirons dans la forêt de Chaux avec lui, dans le Jura. Excellent week-end à tous. Dans quelques instants, Zoé Variez-vous.